Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Kaká in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Kaká, davanti al portiere, Kaká, rete, 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 Kaká.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tecco, tiro, gol! Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci prova con il destro, e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, on ne sait pas à quelle heure vous allez nous écouter, puisque je suis toujours évidemment avec Guillaume Maillard-Passini. Salut Guillaume.
Salut Johan, salut à toutes et à tous.
Alors Guillaume, je dis ça parce qu'on est dans le 33e épisode du podcast Calcio et Pépé et qu'on enregistre à minuit et quart après la journée du milieu de semaine en Serie A, c'était la 30e journée. Donc on n'est pas forcément hyper frais après une journée de boulot, mais on va essayer de faire ça proprement.
Évidemment.
Et vous nous
toujours.
Excuserez s'il y a des mots qui ne sortent pas correctement de notre bouche ou si on mange certaines syllabes ou ce genre de choses. L'horaire expliquera pas mal de choses. On va pas dérouler de sommaire, on va faire assez simple ce soir. On va revenir sur les deux dernières journées de Serie A, donc la 29e et la 30e. Et on a organisé le podcast par club. Pour faire plus simple, donc on va commencer par le Napoli, ensuite la Juve, l'Inter, la Roma, Milan, on fera un petit dolce pêle-mêle, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire aussi, et puis on terminera avec la petite histoire de la semaine du football italien. Guillaume, on commence par le Napoli du coup.
Oui.
Alors une constante chez les gros cette saison, hormis la Juve, c'est... Justement dans la constance, c'est l'inconstance de ces équipes-là qui sont capables de faire des très bons matchs et d'autres très médiocres 7 jours ou 3 jours après. Et c'est le cas du Napoli, puisqu'ils avaient démoli la Roma au Stadio Olimpico 4-1, et c'était dimanche à 15h. Et ce mercredi, ils ont perdu contre Empoli, sur la pelouse d'Empoli, 2-1. Alors, difficile de faire un résumé des deux matchs et de les mettre ensemble, donc on va peut-être commencer par celui de Rome. La première chose moi que j'avais noté, c'est qu'il y avait des remplaçants à la hauteur, puisqu'il avait fait tourner et que, en gros, il avait il y avait 7-8 joueurs titulaires à Rome et 7-8 encore ce soir. C'est-à-dire qu'il a fait un mix avec, en donnant du temps de jeu sur les deux rencontres à quelques joueurs qui en ont beaucoup moins. Mais en fait, ce qu'on a vu à Rome, bah, n'a pas marché à Empoli. Donc c'est un peu, c'est en ça que l'analyse est un peu limitée. À Rome, des joueurs comme Verdi et Younes avaient marqué des points. Mertens aussi, puisqu'il part plus titulaire forcément dans l'esprit d'Ancelotti. Et puis ce soir, contre Empoli, bah, le même Younes a pas été bon. Ounas n'a pas été bon. Kevin Malcuit, qui n'avait pas joué à Rome, n'a pas été bon. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de faire une analyse globale des deux matchs. À Rome, en tout cas, ce qui a été marquant, au-delà de l'impuissance de la Roma, etc., mais pour parler du Napoli, c'est que la mobilité des petits joueurs devant a fait beaucoup de mal à une défense un peu pataude et très lourde de la Roma.
Écoute, comme tu dis, moi j'ai beaucoup aimé dimanche l'attaque napolitaine. Après, c'est vrai que le contraste est tellement saisissant avec le match de ce mercredi soir que c'est assez compliqué de se remettre dans le bain du match à Rome. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, à Rome, c'était vraiment une grosse prestation collective et même individuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, Younes. Verdi était aussi très bon. Mais c'est vrai que voilà, il y avait aussi à mettre la faiblesse de la Roma en face. Donc voilà, c'est une grosse démonstration de force, pardon. Après, pour revenir au match de ce mercredi soir face à Empoli, moi, ce que je souligne surtout, et Ancelotti, pour l'avoir vu après le match, l'a dit aussi, c'est que l'attitude n'était pas bonne. Perdre des matchs, tu peux en perdre. On sait que le Napoli est un peu entre deux eaux, parce que voilà, le championnat est fini pour eux, parce que devant, la Juve est trop loin, et l'Inter derrière, bon, est pas trop près. Donc voilà, c'est sûr que c'est compliqué de se motiver, mais quand tu portes ce maillot, c'est un peu facile à dire, mais quand tu portes un maillot, quand tu es footballeur, il faut te motiver. Et moi, ce que j'ai vu à Empoli, honnêtement, tu peux pas. Il n'y avait pas de motivation, il n'y avait pas d'envie. Et en trois jours, on a vu tout son contraire. Donc, c'est paradoxal, mais c'est, voilà.
En fait, contre la Roma, il y avait cette volonté de faire mal et de frapper un grand coup sur le championnat, puisqu'ils sont plus rivaux cette saison, mais d'afficher une victoire, en tout cas marquante, parce que marquer 4 buts à l'Olympico, ça arrive pas tous les jours non plus. Et puis contre Empoli, il n'y avait pas cette envie de faire mal. Au contraire, il y avait cette envie de gérer le ballon. Ils ont eu le ballon quasiment tout le temps. Ils l'ont fait tourner, ils l'ont fait circuler. Mais il n'y avait pas cette grinta, cette en Italie la cattiveria, d'aller chercher plus loin que ce qu'ils faisaient tranquillement. Et c'est en ça que ça a été décevant. Alors on reparlera d'Empoli un peu plus tard dans le Dolce, parce que j'ai quelque chose à dire sur cette équipe, mais. C'est vrai que ce manque de continuité avec ce mercredi soir contre Empoli, vraiment abyssale, quoi. Ils ont rien produit. Quand tu regardes les stats avancées, il y a très peu d'occasions, très peu d'opportunités de marquer. On n'a pas trouvé Milik. Ounas a été transparent, mais un poste qui est pas vraiment le sien non plus. Donc c'est vrai qu'Ancelotti, la composition d'équipe de ce soir, par exemple, je la trouve un peu, je vais pas dire étrange, mais il y a donné du temps de jeu à tout le monde, oui, mais du coup tu t'assois aussi sur cette idée de mettre les meilleurs joueurs à l'instant T. Je suis pas sûr que Luperto soit le coup du siècle. Voilà, donc c'est vrai que là-dessus il y a aussi des choses à dire. Et puis moi, ce que j'ai aimé ce que je note au-delà des deux matchs, parce qu'il en a commencé un comme titulaire et puis l'autre était remplaçant ce soir, enfin ce mercredi soir du coup, c'est l'importance qu'a pris un joueur comme Fabian Ruiz dans cette équipe. On l'avait déjà noté un peu avant dans la saison, qu'il était en progrès, qu'il s'affirmait de plus en plus, et j'ai l'impression que le départ d'Amzik l'a un peu libéré, il lui donne beaucoup plus de responsabilités au milieu, et je trouve que ce soir, ça a manqué, parce que quand t'as pas alors déjà quand tu mets Zielinski un coup au milieu gauche, un coup milieu axial, bon c'est toujours un peu particulier avec Zielinski, il a commencé très fort, il est un peu moins bien je trouve, malgré son beau but sur la pelouse d'Empoli. Mais c'est vrai que aujourd'hui je trouve que j'exagérerais à peine en disant que Fabian Ruiz est le milieu le plus important de Naples, même devant Alan en ce moment.
Bah écoute, t'as très bien résumé ce que je pense aussi. Écoute, nos pensées se ressemblent, se rassemblent.
C'est plutôt bon signe.
Exactement. Non, mais évidemment, Fabian Ruiz, c'est un des meilleurs éléments de Naples cette saison. Alors lui aussi a été un peu constant à un moment, mais c'est vrai que le niveau qu'il affiche depuis plusieurs matchs est assez bon. Après, pour revenir dans un contexte un peu plus global, juste une minute, en regardant un peu, tu vois, les scores du Napoli cette saison, je me suis dit quelque chose, c'est que quand les matchs comptent pas trop, ils ont tendance à se relâcher. Ancelotti l'a encore dit ce soir, mais tu vois le match à Leipzig par exemple qui comptait pas pour grand chose.
À Salzbourg,
comptait pas pour grand chose, ils l'ont perdu.
Il y a le match contre l'Udinese aussi, hein, le 4-2 qui est bien payé au final. Hein.
Et rappelle-toi le match contre Sassuolo aussi.
Ouais, exactement.
Un partout qui avait pas été très bon. Donc tu vois, il y a aussi cette tendance du Napoli cette saison à être irrégulier. Et après voilà, c'est pas le seul club, on en parlait tout à l'heure, à l'être cette saison, mais c'est vrai que Napoli c'est une constante et l'année prochaine, il va peut-être falloir corriger ça si on veut viser un peu plus haut, notamment en championnat.
Mais il va falloir déterminer, comme d'autres clubs, s'ils veulent essayer de gagner ou si une place en Ligue des Champions est suffisante pour faire tourner le club.
Je sais pas te mentir que je suis inquiet.
Oui, bah comme un peu tout le monde, hein, comme ouais. Naples, comme la Roma, comme Milan. À l'heure actuelle, personne n'a vraiment envie de gagner. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Je trouve que certains clubs se donnent pas les moyens, se structurent pas bien pour essayer d'aller titiller la Juve, quoi. Et en se disant que de toute façon, la Juve, elle est infiniment trop forte pour eux depuis quelques années et que pour faire tourner le business, une place en Ligue des Champions, c'est suffisant. Donc on verra ce que fera le Napoli cet été. On passe à la Juve. Le seul gros club qui a gagné ces deux matchs. Mais alors c'est pareil, c'est deux matchs avec des prestations un peu différentes. Alors plutôt que de revenir sur chaque match séparément, on va partir de Moise Kean, parce que sur les deux matchs, il a eu son importance. Il a marqué sur les deux matchs. Ce qui a été marquant pour moi dans l'utilisation de Moise Kean, c'est que c'est vraiment un profil unique dans cette équipe. C'est-à-dire que c'est un joueur qui peut amener du jeu en première intention, qui peut aller chercher la profondeur, qui peut être touché très rapidement, là où des joueurs comme Mandzukic, comme Ronaldo sont plus des joueurs de rupture, bons dans le jeu aérien, capables de décrocher, d'orienter le jeu dos au but, alors que Moise Kean apporte un profil tout à fait différent, et c'est ce qui a permis à la Juve de s'en sortir face à une très bonne équipe d'Empoli, puisque c'est à son entrée et aussi l'entrée de Spinazzola qui ont un peu bougé la Juve et ont permis de gagner dans un match qui était franchement pas terrible. Je pense que t'es d'accord avec moi.
Oui.
Et puis là contre Cagliari, on a beaucoup vu Moise Kean. Il a été cherché souvent très rapidement. Il s'est procuré pas mal d'occasions. Il a fini par marquer. On reviendra après sur hors football, on va dire ça comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est un profil très important et comme on l'a vu la dernière fois. C'est aussi pour ça qu'ils l'ont gardé finalement, qu'ils l'ont pas envoyé en prêt. C'est parce que il apporte quelque chose d'autre et dans la rotation, ça peut être intéressant.
Mais voilà, pour pas revenir sur tes propos parce que t'as tout dit. Comme tu l'as, voilà, il devait partir en prêt en janvier. C'était prévu, ça n'a pas été fait. Moi, ce que j'aime beaucoup chez Moise Kean, c'est que en plus d'avoir un profil atypique dans l'effectif de la Juve, c'est que alors. Vous allez me dire c'est normal pour un attaquant, mais c'est qu'il marque.
Ouais.
À chaque fois qu'il rentre, il marque. Rappelle-toi aussi contre l'Atletico, mm-hmm. Il y a une énorme occasion juste après sa rentrée. Donc, il parvient toujours à se procurer des occasions. Et il ne faut pas aussi oublier ce qu'il a fait en équipe d'Italie. Donc, alors, est-ce qu'on assiste à la naissance d'un grand champion, d'un crack, ouais, comme on dit, c'est possible. On ne va pas s'enflammer parce qu'on sait qu'en Italie, on a tendance à le faire et souvent on est très déçu. J'ai pas te mentir que depuis la comparaison des Chili au Maldini,
tu regardes avec prudence.
Voilà, j'ai mis de l'eau dans mon vin, mais c'est vrai que Moise Kean, il y a quand même quelque chose qui fait que voilà, on a envie de croire que voilà, ça pourrait être le futur attaquant de l'équipe d'Italie. Après, on va prendre notre temps, on va falloir voir aussi ce qu'il va faire en fin de saison. Est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va non plus réclamer du temps de jeu. Faut se rappeler que son agent est Mino Raiola, donc c'est jamais simple de négocier avec lui. Il faut aussi se rappeler que Moise Kean est en fin de contrat en 2020. Toi, c'est dans pas longtemps, il reste un an. Donc théoriquement, la Juve pourrait le perdre l'année prochaine, même en janvier, gratuitement. Donc c'est très bien de le voir exploser à la Juve, mais voilà, il va y avoir aussi ce paradoxe de qu'est-ce qu'on fait cet été. Est-ce qu'on va arriver à le garder? En tentant de le convaincre de rester, ou alors est-ce que lui, logiquement, j'ai envie de te dire, va pas se dire bon, Maintenant, j'ai prouvé que j'avais ma place. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'en vais? Est-ce que j'attends encore à la Juve? C'est tout le paradoxe. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui va nier le mercato l'été prochain.
Bah, en fait, la Juve, c'est pas simple. Moi, aujourd'hui, j'imaginerais une prolongation et le fait de le garder en lui garantissant peut-être un peu plus de temps de jeu. Parce que là, il a fallu quand même attendre vraiment l'arrivée des huitièmes de la Ligue des Champions pour le voir émerger.
Et les blessures. Hein.
Voilà.
Les
blessures, donc, il faut peut-être, sur certains matchs, mettre Mandzukic sur le banc un peu plus souvent. Mettre Ronaldo aussi sur le banc, c'est pas facile. C'est pas aisé de le convaincre. Hein, c'est un peu bon courage. Mais en même temps, le problème, c'est que déjà, il y a un problème de nombre. C'est-à-dire que si tu enlèves Moïse Keane, t'as plus de joueurs capables de jouer au poste de numéro 9. Donc ça veut dire que derrière tu vas recruter, mais est-ce qu'aujourd'hui la priorité de la Juve c'est de recruter un attaquant, enfin en cas de départ de Keane c'est d'aller recruter un attaquant. Moi je vois plusieurs autres postes qui peuvent être renforcés avant celui de numéro 9. Donc la bonne idée de la Juve ce serait de le garder, de lui garantir un peu plus de temps de jeu, de le prolonger évidemment.
Le prêter?
Non, de le garder. Moi je le garderais même pour la saison prochaine, parce que sinon t'es obligé de recruter. Sinon t'es obligé de recruter, et pour moi il y a des secteurs où des recrues seraient plus importantes. Tu vois, le milieu de terrain, ça manque de créativité. Pour moi, il faut absolument un relayeur différent des Khedira, Emre Can, Matuidi et compagnie dès l'été prochain, parce que c'est vraiment très limité sur certains matchs où tu joues contre des défenses regroupées et c'est pas les courses de Matuidi, tu les vois pas parce que logiquement il a pas d'espace, etc. Même chose pour Khedira. Faut pas oublier non plus que Khedira et Emre Can, c'est quand même des joueurs qui sont sujets à blessure aussi. Donc j'irai chercher plutôt un joueur créatif, et puis aussi sur les côtés, tu vois, les latéraux là sont pas dans une bonne période, je trouve, à la Juve. Cancelo est un peu moins bien. Alors il a pas, c'est pareil, le management d'Allegri là-dessus, je me pose quelques questions. J'ai l'impression qu'il lui fait pas trop confiance. Dès qu'il peut le sortir ou l'écarter, j'ai l'impression qu'il le fait. De Chilio, pour moi, il a pas le niveau Juve, et Alexandro fait pas une deuxième bonne partie de saison.
Disons que Spinazzola marquait des points aussi.
Voilà, je trouve aujourd'hui limite que Spinazzola est plus impactant pour la Juve qu'Alexandro.
Rappelle-toi son match contre l'Atletico à Spinazzola.
Exactement. Hein, donc tu vois, moi j'irais plutôt chercher du côté des latéraux et du milieu de terrain créatif, en plus d'un défenseur central, parce que Caceres est encore blessé. Caceres, sa venue pour le départ de Benatia, c'est pas le coup du siècle cet hiver. Donc voilà, j'estime en tout cas qu'il y a des postes qui sont plus importants pour le recrutement de la Juve cet été que d'aller s'enquiquiner à chercher un neuf, qu'il faut qu'il ait le niveau, mais qu'il concurrence pas tout à fait quand même Ronaldo et Mandzukic, ce qu'est aujourd'hui Moïse Keane.
Je suis assez d'accord avec toi. Après, le problème, ce sera, s'il a passé garantie de temps de jeu, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le vends pour gagner un peu de millions d'euros avant sa fin de contrat? Ou alors, est-ce que tu le laisses partir? Ou alors, est-ce que tu le gardes sans être sûr de pouvoir le prolonger? Donc, tu vois, il y a aussi ce paradoxe.
Il faut lui donner ce temps de jeu. Quand tu vois ce qu'il fait cette saison, avec le peu de temps de jeu qu'il a, la Juve doit prendre une décision. Elle doit protéger ce joueur, parce qu'il peut devenir effectivement un crack, et il faut absolument le garder et le prolonger et lui donner du temps de jeu, parce qu'à chaque fois qu'on lui a donné jusqu'à présent sous le maillot des Bianconeri, il a répondu présent.
Exactement.
On parle rapidement de ce qui s'est passé à Cagliari mardi soir.
Il faut bien.
Voilà, on avait déjà fait le point avec l'affaire. Avec le cas Koulibaly, entre guillemets. Là, c'est à peu près la même chose. Pour faire un topo rapide. Alors, on se base sur les gens qui étaient au stade, puisque le ressenti entre stade et télé, c'est quand même assez différent. Un journaliste terrain de Sky, dès mardi soir, expliquait en direct à la télévision italienne qu'il avait entendu des premiers bouts, alors c'est les fameux bou, voilà, imitation cri de singe, dans la courva de Cagliari, de manière très isolée, au début de la seconde période, et que Moïse Keane, comme il jouait face à la courva, c'est-à-dire que la Juve attaquait face à la courva, et donc Moïse Keane se retrouvait assez proche des supporters, avait peut-être, dans sa célébration, voulu répondre à ces cris racistes qui ont, du coup, était multiplié par 10 après son but envers lui, du coup après on ne sait pas pourquoi envers Matuidi qui n'avait rien demandé de spécial, envers Alexandre aussi ont expliqué les journalistes de Sky. Plusieurs choses à dire. La première, Guillaume, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive à Cagliari.
Malheureusement.
Un an après. Hein.
Voilà, Matuidi avait déjà eu des problèmes la saison passée. Deuxième chose, c'est les propos totalement irresponsables et lamentables du président de Cagliari sur Sky, au micro de Sky hier, où il expliquait concrètement que, alors déjà, il niait les propos racistes. Il les écartait d'un revers de la main en expliquant que de toute façon si c'est Bernardeschi qui avait marqué le but, il aurait été insulté de la même manière. Bon, en l'occurrence, on parlait pas d'insulte traditionnelle, on parlait d'insulte raciste. Alors il a aussi expliqué que Matuidi avait fait toute une scène puisque Matuidi a fait arrêter le match, enfin a provoqué l'arrêt temporaire du match par l'arbitre en allant lui parler en lui disant que c'était inacceptable. Autre chose, la réaction de Bonucci, tu peux peut-être dire un mot, Guillaume, je te laisse parler sur le cas Bonucci.
Écoute, Bonucci interrogé à chaud après le match, qui dit en gros, que c'était, je cite, 50-50, dans le sens où Moiskin a provoqué, et les supporters de Cagliari, en réaction à sa célébration, ont fait ces cris racistes, donc des propos indécents.
En expliquant aussi que, Moiskin avait d'autres façons de célébrer le but, comme de le célébrer, je vous avais prévenu, il est tard, comme le célébrer avec le reste de l'équipe, une accolade.
En plus, je pense que tu as vu aussi les photos.
Oui.
Où Bonucci va voir Moiskin, en gros, le prend, elle lui dit d'arrêter d'exulter, et ensuite va s'excuser. Ouais. Face au tifosi de Cagliari, scène aussi assez étonnante.
Alors il a répondu sur Instagram ce soir, oui. Donc ce mercredi soir. J'ai trouvé ça léger et pas très convaincant. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Après, on peut ne pas douter de ses propos et peut-être. On va pas aller trop loin dans l'analyse et.
Je pense que c'est pas nécessaire après la journée qu'il a passée.
Voilà, il a simplement dit que tu as le poste sous les yeux de Bonucci.
Écoute, si tu meubles pendant à peu près 15 secondes, je peux.
C'est
l'avoir.
Vrai. Bon, alors. Écoute, tu veux que je meuble façon IKEA avec un Loftoon, une superbe armoire.
Écoute, si tu veux, j'ai déjà les propos de Bonucci, je peux te les lire.
Vas-y.
Si tu veux. Alors voilà, Bonucci sur Instagram dit qu'après 24 heures, il souhaite préciser sa pensée. J'ai parlé à la fin du match et je me suis exprimé de façon manifestement trop hâtive. Et il dit que ses propos ont été mal interprétés, je cite. Il dénonce et condamne toute forme de racisme et de discrimination. Et à la fin, il dit que certains comportements ne sont jamais justifiables et sur ce point, il ne peut pas y avoir de malentendu. Voilà. C'est ce qu'il a mis. Moi, je crois un peu tardivement.
Moi aussi.
Pas
un mot pour Moiskin, même si la photo est avec Moiskin.
Ouais, moi, tu vois, je m'attendais quand même au vu de ce qu'il a reçu.
De l'ampleur que ça a pris.
Ouais, je m'attendais, tu vois, à quelque chose au moins au milieu de l'après-midi.
Écoute, ce qu'on peut dire, c'est que chacun jugera, les propos post-match et les propos 24 heures plus tard.
Disons qu'on en pense pas moins.
j'ai remarqué que t'aimais quand même beaucoup les expressions désuètes. et que même à minuit 30, t'es capable de...
Je suis très ringard et conservateur.
après ça, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il serait peut-être temps, mais bon, ça, c'est l'Italie, malheureusement, qu'on fasse quelque chose, parce que plutôt que de s'indigner à travers la presse, les réseaux sociaux...
Et tu te rends compte qu'on n'avance pas quand même dans ce...
Quatre mois plus tard, après Koulibaly, rien n'a changé, on va encore fermer peut-être la courva pendant un match, deux matchs, mais c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas une réponse, c'est pas une punition collective, parce que moi, j'entends le fait que c'est peut-être 10, 20, 50 abrutis qui le font, mais à ce moment-là, prends des décisions sur ces personnes-là. Ça sert à rien de fermer une courva où des mecs ne vont pas faire ça. Aujourd'hui, on a des normes quand même dans les stades de football italien où tu dois avoir des... C'est dans le cahier des charges de la Ligue où tu dois avoir un service de vidéosurveillance poussée qui permet d'identifier les personnes. Je suis désolé, c'est quand même pas compliqué, inversement, de regarder les images et de sanctionner, je veux dire, quelqu'un qui fait bouh, ouh, 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 comme ça pendant 20 secondes, tu vas le voir quand même à la caméra, c'est pas possible. Donc voilà, mais ça, l'Italie n'est pas prêt à le faire, et puis t'as les présidents qui sont pas prêts à aller contre leurs supporters, parce que les supporters italiens ont un gros pouvoir dans les clubs et qu'ils veulent pas se confronter à ça et que ça peut tout de suite dégénérer. Et ils ont pas le courage d'aller au fond des choses. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on martèle depuis, nous, les observateurs extérieurs, qu'on martèle depuis 10 ans, depuis 15 ans. Mais rien n'a changé. Rien n'a changé. Non. Je me souviens d'Emerson de retour à l'Olympico qui prenait des bourrassistes de la part de supporters de la Roma parce qu'il avait quitté le club. Qui était qualifié de mercenaire, etc. Mais ça, c'était il y a bientôt 15 ans. Rien n'a changé là-dessus et on prendra. J'ai l'impression qu'ils ne prendront jamais de mesures.
Et combien de cas depuis ? Il y a eu Boateng en match amical, tu te rappelles, qui avait quitté
Muntari.
Le terrain. Il y a Constant qui avait quitté bien le terrain sûr. Aussi pendant le trophée au team. Donc on parle de match amical quand même. Ouais. Sur Boateng ou Constant, enfin, c'est incroyable. Moi, j'étais au derby, tu sais, pour Milan Inter. Et donc. C'est quasiment passé inaperçu. Alors, la Cour Vanord était sanctionnée d'un match avec ce conservatoire. Donc, même pas de suspension ferme après déjà ce qui s'était passé cette saison, avec l'épisode Koulibaly. J'étais au derby et j'ai entendu, moi, les bouts pour Franck Kessy. Mais sauf que, rien.
Ouais.
Rien. Alors que, pour te dire, j'étais quand même assez loin de la Cour Vanord. Hein. J'étais assez éloigné. Et pourtant, je les ai entendus. C'était très audible. Et pourtant, au vu du nom du speaker, l'arbitre n'a rien fait. Voilà, il y a eu cette sanction d'un match assez conservatoire, mais tu vois, c'est quasiment passé inaperçu. Et pourtant, il y a quand même eu ce cas Kessy aussi. Et malheureusement, écoute, ça continue.
Non, et puis les instances italiennes ne font strictement rien. Aujourd'hui, on n'a pas vu passer de communiqué pour défendre le joueur.
Du laxisme.
Exactement. Pas le courage d'affronter les choses correctement. Et puis, il y a un climat qui s'instaure aussi en Italie, sans vouloir faire de politique parce que c'est pas le but, mais qui favorise ce type de comportement.
Évidemment.
On va passer à l'Inter du coup. Alors même chose, hein, l'Inter comme Naples, capable du meilleur comme du pire. Le meilleur, c'était ce mercredi sur la pousse du Genoa, victoire 4-0, très très facile, bien aidé aussi par les circonstances du match, avec une équipe du Genoa réduite à 10 dès la 39e minute. Et puis par contre, quelques jours plus tôt, ils avaient perdu face à la Lazio. Sur le score d'1-0. Alors, moi, je vais te parler du match contre la Lazio, parce que j'ai pas vu celui contre le Genoa ce mercredi soir.
Parce qu'il était pas sur Sky.
Et voilà. Puisque même quand j'ai des multiplex, et ben, on n'a pas tous les matchs. Et ça, c'est absolument.
Est-ce qu'on peut
génial.
Dire que tu m'as écrit en panique?
Oui.
Je veux dire, mais.
Est-ce que toi aussi que sur toi Sky, aussi tu n'as pas le match de l'Inter et pas celui de Parme? Et tu m'as répondu, et oui, malheureusement.
Ils sont sur DAZN.
Voilà, exactement. Alors sur le match de la Lazio, écoute, ce match-là. J'avais l'impression de revoir le Inter-Parme de début de saison. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire du ballon. On a le ballon. Ça, on l'a. On ne sait pas trop quoi en faire. Donc, on arrose de centres. Il faut quand même savoir que dans ce match-là, il y a eu 45 centres.
Son numéro.
Centre et corner. Hein. Sachant que Martinez n'était pas là, Lautaro, et que Icardi n'était pas là non plus. Donc, c'était des centres pour... Bah, on ne sait qui. On sait très bien que Keita Baldé, c'est pas un très bon joueur de tête. Hein, que Perisic, c'est pas un très grand joueur de tête. Que les attaquants qui étaient alignés ce soir-là n'étaient pas des joueurs fondamentalement bons dans le jeu aérien. Mais voilà, on avait l'impression de retrouver l'Inter du début de saison qui ne savait pas trop quoi faire et qui du coup arrosait la surface de centre en se disant, écoute, sur un malentendu, ça va peut-être marcher. Et c'est une vraie limite de Spalletti qui, je trouve, n'a toujours pas imposé sa patte sur cette équipe. Ça fait quand même bientôt 2 ans qu'il est à la tête de cette équipe. Ça m'étonne beaucoup parce que... Alors, ça m'étonne oui ou non. Oui et non, parce que à la Roma, ça a été très compliqué aussi. La deuxième phase à la Roma, alors que lors de son premier passage à la Roma, lors de son passage à l'Udinese, lors de son passage au Zénith, on voyait que c'était une équipe de Spalletti. Et là, récemment, je trouve que peut-être qu'il est devenu un peu plus... pragmatique ou conservateur, mais en tout cas on a du mal à voir où il veut en venir. Pourtant il a des joueurs de qualité, et ça c'est vrai que c'est assez compliqué. Tu vois, je regardais les stats avancées, ils ont 65% de possession, Ils font un vrai pressing à la perte de balle, donc c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le ballon. Et bon, ce soir, ce mercredi soir, ça s'est bien passé contre le Genoa, du coup, contre la Lazio, c'était pas ça. La Lazio, sans faire un grand match, a réussi à s'imposer. On reparlera de la Lazio dans le Dolce, parce que on a aussi quelques observations à faire. Et puis ce soir, du coup, toi qui as vu quelques images moi j'ai vu que les buts, hein, pour être tout à fait honnête.
J'ai vu, disons, allez, une quinzaine de minutes. Tout compris, ouais. Parce que c'est assez compliqué de tout regarder en même temps.
Ouais, clairement.
Mais écoute, ce qu'il faut déjà souligner ce soir, les retours d'Icardi. Mm-hmm. Évidemment, c'est important. Et rentrer dans beaucoup d'actions de l'Inter, il obtient le penalty, il le transforme, il rate deux face à face. Il tape le poteau dans l'un de ses face à face. Donc
il fait là, une belle passe décisive pour Perisic.
Il fait une passe
aussi
pour son grand ami Perisic. non, Icardi est revenu ce soir en grande forme physiquement. Ouais, il est un peu calé en deuxième et c'est pour ça qu'il est sorti. Mais c'est vrai que voilà, on peut souligner que Icardi est bien revenu et que forcément ça va être un atout pour la fin de saison. Même si avec cette victoire, honnêtement, je pense qu'ils ont un pied et quatre orteils en Ligue des Champions pour l'année prochaine, parce que tous les concurrents ralentis et ont gagné. Donc c'est une victoire fondamentale, comme tu l'as dit, aidée par l'expulsion du défenseur du Genoa sur le penalty. Donc voilà, c'était un match un peu facile. Après le rouge, donc pas grand chose à rapporter.
Il termine avec 77% de possession. Les pauvres voilà, joueurs du Genoa voilà. Ont couru après le ballon.
Oui, voilà. Après, disons qu'en deuxième mi-temps, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. En première, l'Inter a quand même bien démarré. Gagliardini qui est main doublée. C'est assez rare pour être souligné, mais il est quand même à 5 buts cette saison. Donc c'est pas rien.
Surtout qu'il joue pas énormément non plus. Il avait perdu sa place. Il est en train de rejouer un petit peu.
Pour un milieu de terrain, c'est pas mal. Hein, quand tu vois que Çalhanoğlu à Milan, il a un but. C'est sur des petites choses comme ça qui font que bah, voilà, l'Inter est aussi devant. Mais voilà, Gardini qui va de son doublé, Icardi qui revient.
Ce que tu as noté quand même, sur, et tu as fait un tweet là-dessus, c'est que les supporters de l'Inter, alors on sait que les groupes de la Curva Nord avaient fait un communiqué de presse expliquant que même s'il était de retour dans le groupe et convoqué pour le match contre le Genoa, eux, ils lui en voulaient toujours et qu'en gros, ils aimeraient plutôt ne plus le voir sous le maillot de l'Inter. Et ce que tu as vu toi du coup lors de ce match, c'est que même après son but, il a été chahuté.
Écoute, il y a une vidéo sur les ultras, on va dire les plus radicaux de l'Inter, qui était parqué du coup dans le stade de Gênes, au Luigi Ferraris, où tu vois le monsieur, on va dire, avec le mégaphone,
le capot,
demande. Au penalty après le but d'Icardi, demande à ses supporters de pas exulter. Il ouais. fait clairement signe avec la main, n'exultez pas. Donc et après les insultes sont parties avec voilà, je te passe les insultes, mais c'est assez virulent. Homme de voilà. Tu comprends bien la suite.
Bien sûr.
Mais c'est vrai que le match à San Siro le week-end prochain, écoute, s'annonce particulier. On va voir si Icardi va jouer. Mais je sais pas. Je pense que on avait déjà cité à ça. Tu te rappelles à l'époque où il est sorti son bouquin. Il y avait un peu une fraction entre les supporters, ouais. Avec ceux qui, je crois que c'était un Inter Bologne, où une partie du public applaudissait. Et puis alors du coup les ultras le sifflaient. Et alors les ultras se sont mis après à siffler les autres supporters. Donc ça va être assez tendu à San Siro. Je suis assez curieux de voir quel sera l'accueil pour Icardi. Mais écoute, ce soir, en tout cas, les ultras ont on va dire montrer de la cohérence à ce qu'ils ont dit, parce qu'ils n'ont pas voulu exulter et sont montrés assez virulents quand même avec leur ex-capitaine.
Et puis on va revenir rapidement sur ce qui s'est passé après le match contre la Lazio et l'interview d'après-match de Spalletti, toujours évidemment de façon très théâtrale. On ne cessera de répéter que cet homme est quand même très particulier, on va dire ça comme ça.
Voir à force lassant.
Voilà, exactement, où il a eu des mots durs hein, quand même pour Icardi. Alors ce côté-là, je le comprends, où il expliquait que bah, c'était à lui de regagner la confiance du club, des joueurs, des supporters, que... Il y a des coéquipiers qui ont pas aimé comment ça s'est passé. Il y a lui l'entraîneur qui est pas prêt à tout pardonner non plus. Donc voilà, mais c'est la manière de le dire, c'est le fait de remettre une pièce alors qu'il aurait pu calmer les choses, parce qu'au final il remet une pièce, mais deux jours après, visiblement, ce qu'expliquait la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, sous pression de ses dirigeants, il est obligé de mettre un peu de d'eau dans son vin, pour reprendre ton expression favorite, pour le convoquer. Et puis là, après le match contre le Genoa, j'ai écouté son interview post-match. Bon, voilà, il a essayé de désamorcer un peu le truc. Il a été un peu moins virulent, mais voilà, cette idée de toujours remettre une pièce dans la machine, je trouve ça très particulier chez lui. Voilà, cette volonté de toujours se mettre en avant, qu'on parle toujours de lui, que voilà, c'est un homme avec un ego très 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 très, très grand, hein, on va dire ça comme ça. Donc on verra ce qui va devenir de la relation Icardi-Spalletti et de s'ils repartiront la saison prochaine ensemble, ce qui est loin d'être sûr.
Oui, en effet.
On passe à la Roma, Guillaume. Donc le côté Roma-Napoli, lourde défaite. Et puis là, Roma-Fiorentina, c'était deux matchs à domicile consécutifs. Roma-Fiorentina, deux partout. Alors, je vais aller.
Je sens qu'il y a noté beaucoup de choses.
Je vais pas te mentir, il y a beaucoup de choses. Donc, je vais essayer d'aller assez vite. Ce qu'on note une nouvelle fois, équipe à l'abandon, pas de caractère, pas de personnalité, des joueurs qui marchent ou qui courent n'importe comment. Parce qu'au final, il faut quand même se rendre compte. Non, mais c'est vrai. Il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est que les joueurs de la Roma ont plus couru que les joueurs du Napoli lors de la défaite 4-1. Sauf que l'impression visuelle te montrait, ou te donnait l'impression, en l'occurrence, quand tu voyais le match, qu'ils faisaient que marcher, et que les joueurs du Napoli, alors ils courent sans doute mieux, ils font des meilleures courses, leurs courses sont très productives, ils sont pas sans cesse focalisés sur le ballon, mais aussi sur les mouvements des autres joueurs. Alerte Steven Zonzi, qui a encore eu des problèmes ce mercredi soir contre la Fiorentina à ce niveau-là. Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, j'ai vu la vidéo passer quand il saute. Oui. Il fait une espèce de roulade.
Voilà, et c'est ça.
Ça me fait dérire.
Ce que je voulais ajouter aussi, Dzeko, évidemment, faut quand même se rappeler.
Il marque plus, hein.
Il a marqué lors de 5 rencontres de Serie A cette saison. Il a marqué 7 buts en Serie A, mais que sur 5 matchs. Sinon, tous les autres matchs, il a pas marqué. Un an sans but à l'Olympico, quasiment. On va bientôt fêter les un an sans but en championnat à l'Olympico. Olsen qui a définitivement plongé, et là je pense que jusqu'à la fin de la saison on verra Mirante, vu les propos de Ranieri en conf ce mercredi soir après le match, où il a expliqué bah ouais, mais en fait Olsen il est un peu isolé, il parle avec personne, donc je voulais donner sa chance à Mirante qui est un expert, sous-entendu Olsen ne l'est pas visiblement, donc j'ai l'impression, et en plus Mirante fait plutôt un bon match, on va dire, il fait 2-3 arrêts importants à 0-0, donc j'imagine que Mirante restera dans le but jusqu'à la fin de la saison.
Nouvelle blessure aussi, non?
Alors, on peut parler des nouvelles blessures. On en est à donc 43 blessures musculaires avec on suspecte une 44e blessure musculaire pour Perotti. Alors lui, s'est voulu rassurer en disant que c'était quelques crampes. Mais Ranieri disait qu'il avait senti une douleur derrière la cuisse. Donc, entre les crampes et la blessure à la Roma, il y a un écart qui est pas très très grand.
Je t'imagine avec un petit bâton, avec un petit stylo, avec une feuille blanche, tu mets un petit bâton à chaque blessure de la Roma.
Alors soit tu le fais quand t'es en prison.
Mais je sais pas, je t'imagine.
Soit tu le fais quand
ça.
Tu comptes les blessures de la Roma. Et en l'occurrence, voilà. En l'occurrence, 44 blessures, 43 blessures musculaires sur 62 blessures au total. Donc c'est quand même pas mal. Au niveau des individualités, ce que je voulais noter aussi, Chic sur l'aile droite, Zaniolo sur l'aile droite, c'est toujours incompréhensible. Ce que j'ai du mal à comprendre, alors, il faut toujours garder beaucoup d'humilité dans nos commentaires, puisqu'évidemment on n'est pas technicien, et on n'a pas le cerveau fait comme les techniciens, etc. Ce que je constate quand même, c'est que Eddie Francesco et Ranieri ont essayé Zaniolo sur l'aile droite. Moi, ce que je constate en simple observateur, c'est que ça ne marche jamais. Et que Zaniolo n'est jamais aussi bon que quand il joue numéro 10. D'ailleurs, ce mercredi soir, il était numéro 10 dans le 4-2-3-1. Donc juste derrière Dzeko, il a été bien meilleur que lors des matchs où il est aligné. Sans être exceptionnel, il était bien meilleur. Il se projette plus facilement dans la surface, il a d'ailleurs marqué, que lorsqu'il joue sur l'aile droite. On va quand même préciser que Justin Kluivert, sans être non plus exceptionnel ce soir, apporte quand même beaucoup de vitesse, de percussion, de qualité technique. Il est à l'origine des deux buts de la Roma ce soir.
Exactement.
Ouais, deux ouais. passes décisives, entre guillemets décisives, puisque la deuxième est quand même bon. Je suis pas sûr qu'il visait Perotti au deuxième poteau, je pense qu'il visait plutôt Dzeko dans l'axe, mais voilà. Mais en tout cas, ça a créé le danger et créé l'occasion de but. Donc je ne comprends pas pourquoi Ranieri persiste à mettre Zaniolo sur le côté droit et pourquoi, deuxième chose, il persiste à aligner Chic et Dzeko ensemble, comme on l'a vu contre le Napoli ou d'autres matchs cette saison. Ça n'a jamais marché sous Di Francesco, il l'avait essayé aussi. Ça ne marche pas sous Ranieri, ces deux joueurs ne peuvent pas jouer, en tout cas pas actuellement ensemble. Ils n'ont pas trouvé le moyen de s'entendre sur le terrain, peut-être que ça arrivera. En même temps, toi comme moi, je pense qu'on n'a toujours pas compris quel était vraiment le profil et les qualités de Chic. C'est assez, ni même la position préférentielle de Chic.
Ranieri a été interrogé sur Sky après le match et du coup ils l'ont interrogé, ils lui ont dit mais Chic en fait qu'est-ce qui se passe, enfin, qu'est-ce qui lui manque. Et Ranieri, tu te rappelles dans sa conf initiale
ouais.
à son arrivée avait voilà vu des mots progresser le jeu pour lui et là ce soir il disait voilà il pour moi c'est un très bon joueur mais il lui manque un déclic, il lui manque quelque chose pour qu'il se débloque.
Ouais, mais le problème mental, je l'entends, mais il y a des choses qu'on voit sur le terrain qui peuvent pas être que mentales. Je trouve qu'il y a des aptitudes qu'il n'a pas pour le très haut niveau pour le moment. Et je suis pas sûr que ça puisse s'acquérir comme ça dans une équipe comme la Roma où il y a une certaine obligation du résultat. Je parle pas de trophée.
Et de la performance aussi.
Hein. Et de la performance. Je voulais continuer aussi sur les propos de Ranieri. Je l'ai trouvé un peu... si on parle du match contre le Napoli, limite de la résignation. Si on parle du match de la Fiorentina ce soir, très content. Et même il explique que les supporters doivent être contents de ce que j'ai lu après le match. Notamment des réactions sur les sites de supporters de la Roma et sur les réseaux sociaux. Ils sont pas spécialement contents non plus. Donc beaucoup plus optimiste ce soir. Ce qui confirme le problème physique de la Roma, en même temps il faudrait être aveugle pour ne pas le voir, c'est quand même qu'il a expliqué qu'il fallait aider les joueurs à s'entraîner, mais on parle pas de les aider techniquement, tactiquement, c'est juste les aider physiquement, c'est-à-dire qu'ils réussissent à faire des entraînements. C'est quand même très inquiétant d'en être là au mois d'avril, enfin je sais pas, je trouve ça bluffant même. Il explique que beaucoup de joueurs sont pas capables de s'entraîner à haute intensité pour le moment. Et même ce soir, ce mercredi soir, du coup, il y a quand même une phrase qui m'a marqué. Tiens-toi bien. Il explique qu'aujourd'hui, sa mission, c'est aujourd'hui, je ne peux que faire le pharmacien. Voilà quelle est sa mission à la Roma à l'heure actuelle. C'est-à-dire essayer de remettre sur pied les joueurs. Et puis pour tout le reste, on verra.
Le problème, c'est qu'il manque plus beaucoup de journées là avant la fin. Donc
ils vont peut-être être bien chauds pour le mois de juin, mais il y a pas de match.
Est-ce que tu penses que ça, plus sérieusement, est-ce que ça découle d'une mauvaise prépa estivale? Est-ce que
c'est ce que beaucoup commencent à dire aujourd'hui?
Ouais.
Ce qui est certain, c'est que au-delà des mauvaises performances de la Roma, de tout ce qu'on veut, des performances individuelles, collectives, etc., les problèmes physiques auront quand même pesé très très lourd cette saison et dans l'absence probable de Ligue des Champions et même d'Europa League. Il faut quand même voir que je te prends quelques stats, hein, mais sur des joueurs qui ont évidemment peu joué, qui ont été freinés par des blessures, voilà, tout ce genre de choses-là. Je suis en train de meubler en même temps pour ouvrir l'onglet statistiques. Alors, si je prends par exemple un joueur comme Perotti, il a fait 10 matchs de Serie A, 4 buts. Si je prends un joueur comme, je cherche tout, Lorenzo Pellegrini, il a fait que 18 matchs, et c'est Lorenzo Pellegrini, 2 buts et 4 passes décisives. Si je prends un joueur comme Cengiz Under, c'est 20 matchs, je suis en train de vérifier en même temps, 20 matchs, et on l'affiche à 3 buts et 5 passes décisives. En clair, il y a des joueurs, même si on prend El Shaarawy,
l'un des meilleurs cette saison.
Voilà, El Shaarawy, c'est que 20 matchs, je te rends compte, de Serie A sur 30. T'as pas un joueur qui dépasse les 20 matchs quasiment de Serie A. C'est 20 matchs et 9 buts de passes décisives. Tu vois, on a quand même des joueurs qui ont de la qualité, mais qui auront trop peu joué cette saison pour peser vraiment sur les résultats.
Qui n'arrivent pas à
enchaîner. Tu vois, je suis en train de regarder dans la liste des joueurs. Si on imagine un 11 titulaire de la Roma, donc Kolarov, 25 matchs sur 30, tout à fait acceptable, sachant qu'il a joué quand même avec un dos de pied cassé, parce que voilà, c'est un peu une brute, on va dire ça comme ça. Fazio, 23 matchs, Manolas, 22. Donc Manolas a joué deux tiers du championnat seulement pour le moment.
Très peu. Hein.
Florenzi, 18 matchs. Donc la défense, on en est là. Milieu de terrain, De Rossi, 12 matchs. Pardon, 15 matchs. C'est 12 titularisations. Pellegrini, 18.
Nzonzi est pas là?
Nzonzi, 25. Donc lui, ça va. Lui, c'est pas trop blessé. Et après, quand tu prends devant, bah, Under, il est à 20. Zaniolo, 21. Justin Kluivert, 23, mais c'est beaucoup de fin de match.
Dzeko, c'est peut-être le joueur qui
enchaîne. El Shaarawy, 20 matchs maximum. Perotti, 10. Oui, Dzeko, il est à 25 matchs.
Ouais.
En gros, t'as 3 joueurs qui ont réussi à largement dépasser les 2 tiers de matchs où ils ont pu jouer. C'est Nzonzi, Kolarov et Dzeko. Quasiment parmi les 3 plus anciens. Voilà. Un peu étrange aussi, mais voilà. Donc, il y a un vrai, vrai problème physique. Et c'est pas prêt de s'arranger, visiblement, parce qu'il récupérait 2 joueurs ce soir, mais il va peut-être en perdre 2 aussi. Donc,
inquiétant, surtout, c'est que Ranieri, qui est un entraîneur quand même assez expérimenté, qui a vu plusieurs choses dans sa carrière, est quand même l'air assez choqué.
Ouais.
Quand même par l'état.
Ah, il l'est totalement.
Voilà, dans laquelle il a récupéré ses joueurs. Donc, écoute, comme tu sais, dans cette situation, je pense qu'on en saura plus d'ici quelques mois quand les langues se délieront. Mais c'est vrai que si Ranieri te dit ça, je pense que, à mon avis, il y a quand même quelque chose. On va dire qu'il y a anguille sous roche pour.
Encore une magnifique expression.
Ah oui, désuète.
On va faire une compilation, je pense, un jour de tes expressions. Et puis, dernier truc, quand même, pour finir sur une note d'optimisme, réaction en deuxième mi-temps qui était plutôt pas mal de la Roma, la Fiorentina a pas trop vu le jour en deuxième période. Il y a eu plusieurs tentatives, alors plutôt de loin de Dzeko, Perotti sur un centre qui rate le ballon de manière assez incompréhensible, Nzonzi de la tête à 5 mètres du but. Donc voilà, la Roma avait les opportunités de gagner ce match et disons que
et
la réaction
de Zaniolo aussi.
Ouais, nouveau but de Zaniolo, donc
toujours à Olympico, hein.
Exactement. Mais voilà, si on veut un peu d'optimisme, côté romain, bah on ira chercher dans la réaction en deuxième période. Après, je suis pas sûr que ça dure non plus très longtemps. Rappel, ce week-end, ils seront sur la pelouse de la Sampdoria. Donc ça va pas être simple non plus. Sampdoria, justement, Milan leur a rendu visite. C'était
magnifique
le week-end
transition.
Dernier. T'as vu ça un peu?
Magnifique.
C'était même pas préparé.
Très
tout,
tardivement, voilà. Pour les auditeurs qui
1h du
pas,
matin, transition digne des magnifique. Meilleures passes verticales de Marco Verratti. Alors, Samp, Milan, 1-0 pour la Samp, Milan, Udinese, 1 partout. Alors, j'ai vu le match contre la Samp, j'ai vu la première mi-temps contre le Milan parce que je voulais essayer de garder une certaine fraîcheur mentale, puisque c'était vraiment, parmi ce que j'ai vu de plus faible en Serie A cette saison, la première mi-temps. On en a vu, hein. Il y a des matchs de la Roma, des matchs de, voilà, d'autres équipes qui étaient assez.
Alors, du coup, de 100 Milan ou de Milan Udinese?
Non, de Milan Udinese.
Ah.
Non, 100 Milan, c'était plutôt pas mal. En même temps, la Samp est une équipe qui joue.
Oui.
Donc, je vais te laisser, naviguer, dans,
est-ce qu'il faut,
sur les matchs
faut
du
vraiment?
Milan. Je sais que tu as dû noter aussi, du coup, pas mal de choses.
Écoute, la première chose que j'ai notée, comme tout le monde, c'est le changement tactique, le changement de schéma. À la journée de la fin, c'est toujours une grande question quand tu sais pas en quel schéma tactique tu vas jouer. Donc là, Milan, enfin du moins Gattuso, a essayé d'utiliser un 4-3-1-2 avec Paqueta derrière Piatek, Cutrone. Écoute, honnêtement, en première mi-temps, les deux ont bien combiné. Cutrone.
Là, tu parles du coup de Milan Udinese.
Ouais, de Milan Udinese. Les deux ont bien combiné. Piatek, Cutrone d'ailleurs a fait la passe décisive pour Piatek. Paqueta s'est rapidement blessé, lui qui n'était pas titulaire contre la Samp pour se reposer, donc il a été blessé contre Udinese, il est sorti, c'est Casillero qui l'a remplacé, Passuzzo qui apparemment était encore un peu blessé.
Donc du coup à ce moment-là ça passe en 4-4-2?
Écoute non. Parce que Gattuso a demandé à Casillero de jouer en numéro 10. Alors, écoute, il est plutôt bien rentré, En deuxième mi-temps, l'Udinez a réussi à le quadriller et ça s'est vite éteint. Mais écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que Gattuso est un peu en pleine confusion. Et du coup, à propos de ce schéma, lui-même, en conférence de presse, il a eu des propos. Alors, tu vois, tu as souligné Ranieri. Moi, chez Gattuso, j'ai quand même plusieurs phrases qui m'ont marqué. Il y en a surtout une où il dit quand même, j'ai utilisé un nouveau schéma tactique. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour l'assimiler. Et moi, j'ai eu 15 jours et demi. Donc, si tu veux, j'ai l'impression que cette demande de modification du schéma était venue peut-être d'en haut, peut-être de Leonardo, peut-être de Maldini, je sais pas, mais c'est vrai qu'il
y avait un truc. Il y avait aussi une pression populaire. Hein,
voilà. Alors, il l'a dit plusieurs fois en parlant de pression populaire. Si tu veux, il a utilisé l'expression à chaque fois on me massacre quand.
Ouais.
Il a utilisé 2-3 fois. Et en fait, j'ai l'impression, alors si c'est vrai, ce sera assez grave et ça c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il disait. Vous avez voulu que j'essaye, voilà le résultat.
Et tu sais, ce serait pas la première fois qu'on le voit, ça. Hein. J'arrive plus à me souvenir. Je me suis fait la remarque il y a pas longtemps en Serie A aussi, mais j'arrive plus à me souvenir. Ça me reviendra peut-être d'ici la fin du podcast où je me suis dit, il a cédé, et puis pour montrer que ça marcherait pas, il l'a fait. Je crois que je me demande si c'est pas avec la Roma d'ailleurs, mais bon, bref.
Et Gattuso aussi, l'avait déjà eu ce genre de propos, et c'est vrai que, toi, pour avoir discuté avec plusieurs tifosi quand même que je connais, et ben ils ont le même sentiment dans le sens où Gattuso dit j'ai beau changer, j'ai beau faire des choses, ça change pas. Donc ça c'est la première chose quand même, c'est le changement de schéma. Et pour te dire, samedi il y a un Juve Milan.
T'es pas serein quoi.
Non, c'est même pas que je suis pas serein, c'est que si je te demande dans quel schéma ils vont évoluer, tu sauras pas me dire. Et si. Quand il y a 8 journées.
Bien sûr que si. Je n'imagine pas une seule seconde qu'il retente ce schéma.
Alors du coup, tu penses à 4-3-3.
Je pense qu'il va revenir au basique.
Peut-être, mais en tout cas, il y a un doute.
Oui, il y a un doute, bien sûr.
Et si tu veux, quand tu as 8 journées de la fin, avoir un doute sur le schéma tactique, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'appréciation globale. Où sont les idées?
J'ai bien une réponse, mais je suis pas sûr que ça...
Vaut mieux pas. Où sont les idées? Où est la condition physique? On parlait de la Roma, mais là, pour la première fois, Milan, physiquement, a vraiment pas été à la hauteur. Ils ont vite calé en deuxième mi-temps. À l'heure de jeu, ils étaient déjà plus dedans. Donc, Gattuso, ce qu'il a souligné à la fin du match, il a souligné à plusieurs reprises toutes les télés, que ce soit à Sky, à Milan Chanel, à la RAI, il a dit, ce qui m'inquiète ce soir, c'est le physique de mes joueurs. Ils répondent plus. C'est quand même assez inquiétant quand tu penses que Milan quand même joue un match par semaine depuis leur élimination en Europa League.
Puis ils ont pas fait grande campagne ou très longue campagne d'Europa League non plus.
Oui, mais bon, quand t'as un groupe avec Dudelange et le Betis, c'est pas forcément ça.
Et l'Olympiakos, n'oublie pas l'ogre grec.
Et l'Olympiakos donc ils avaient joué contre l'Assemblée samedi, mais bon, t'es quand même en droit de t'attendre mardi à des joueurs assez frais, surtout que il avait aligné Laxalt, il avait aligné Abate. Il avait aligné Coutronné.
T'en as pensé quoi de Laxalt?
Écoute, Laxalt, alors moi Laxalt, je lui trouve des excuses dans le sens où, d'ailleurs, on reparle de ça, mais Gattuso, tu vois, encore à la fin du match, a dit, oui, mais Laxalt, donc il a été bon, mais pas plus, parce que si vous regardez ses matchs au Genoa quand il y était, ou avec l'Uruguay, c'est un joueur qui doit partir lancé.
Et puis dans une défense à 5 aussi, donc.
Et toujours dans une défense à 3 ou à 5, ça dépend des Et si tu veux, Gattuso l'a dit, tu vois, dans le sens où, Laxalt, moi je le fais dans une défense 1-4, mais c'est pas son poste. Donc c'est assez étonnant. Mais moi, Laxalt, pour moi, il est quand même titulaire en équipe d'Uruguay. Tu te rappelles ses matchs de Genoa, c'était quand même un très bon joueur.
Ouais, mais c'est vrai qu'il y a quand même une. Moi je trouve que sur ce poste de latéral, il y a quand même une très très grosse différence entre évoluer piston gauche dans une défense à 5 et. Arrière-gauche dans une défense à 4. Les mécanismes sont quand même hyper différents.
Mais bien évidemment, mais c'est pour ça que tu ne peux pas demander à Laxalt de... Toi, tu vois comment est la possession de balle du Milan, tu ne peux pas lui demander de partir alors qu'il a arrêté.
À la limite, il voudrait mieux le mettre ailier gauche à ce moment-là.
Ah ben, faut l'avancer dans un 4-3-3 et le mettre sur le côté gauche, oui. Pourquoi pas, il n'y a que le Çalhanoğlu au milieu, ça pourrait être une solution. Mais moi, Laxalt, je suis persuadé que c'est un bon joueur. Mais voilà, il est bloqué par ce jeu qui est quasiment inexistant. C'est un peu comme Rodriguez. Si tu te souviens, à l'époque de Wolfsburg, c'était quand même un bon joueur.
Ouais.
Qui attaquait, qui avait une bonne patte gauche. Et depuis qu'il a Milan, il est freiné, il ose pas passer la ligne de terrain. Donc, c'est quand même une constante chez des joueurs comme Pierre-Yves à Milan qui n'arrivent pas à retrouver leur jeu comme Çalhanoğlu ou comme d'autres. Donc écoute, contre l'Udinese, c'était quand même une prestation assez, comment dire, pour être poli, c'était une prestation délicate, assez insipide, voilà, délicate. San Siro a fait que siffler. Alors, il y a eu des notes positives, un peu comme Coutronnet qui voilà, fait son match, qui s'est bien battu. Après, il y a quand même des grosses lacunes techniques. Mais voilà, il s'est bien battu. Piatek, qui moi je trouvais quand même exemplaire dans
l'attitude.
Attention,
Piontek, sinon tu vas te faire taper sur les doigts.
Piontek, pardon. Que je trouve quand même exemplaire dans l'attitude parce que voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de ballons. Et pourtant, bah, il se bat, et il essaie de faire ce qu'il peut, il a encore marqué. Donc voilà, il y a quand même des bonnes notes, mais c'est vrai que la prestation globale est inquiétante. Et voilà, on a encore la chance, que ce soit comme la Roma, comme la Lazio, on assiste quand même à une course avec les champions qui est quand même très tristounette.
C'est moins qu'on puisse dire.
Et voilà, et Milan hier était mort quasiment dans la course avec les champions pour beaucoup. Et ce mercredi soir, après les résultats de la Lazio, de la Roma, bah, est toujours dans la course. C'est quand même assez incroyable de se dire ça. Et pourtant, ils sont toujours là. Samedi, un gros match contre la Juve, contre une Juve, sans Ronaldo, sans probablement Dybala. Je pense que Allegri fera un turnover en vue du match face à l'Ajax. J'ai envie de me dire quand même que Milan va y aller pour gagner, même si ça va pas être simple avec les absences de Paqueta et Donnarumma. Mais tu vois, tu peux quand même t'attendre à quelque chose d'y aller avec un peu d'ambition. J'ai quelques doutes, pas te mentir, mais je pense que c'est quand même, avec la chance que t'as encore, que la Roma et la Lazio freine, tu dois aller à Turin en te disant, bon, il y a un coup à jouer.
Et puis surtout que ce qu'il faut noter, c'est que pendant que Milan jouera contre la Juve, la Roma ira sur la pelouse de la Samp, donc vraiment pas simple, et l'Inter jouera l'Atalanta, donc pas simple non plus. Donc il y a des équipes qui vont perdre des points aussi, donc autant y aller avec de l'ambition pour prendre
et
des
surtout,
points.
Et surtout que la Juve, alors je sais pas si, bon, pour le moment c'est difficile à dire, mais je sais pas si tu es d'accord, mais je pense quand même qu'il y aura un gros turnover connaissant Allegri. Et...
Bah, je sais pas s'il sera si énorme que ça parce qu'ils ont pas mal de blessés aussi à la Juve, donc.
Je me demande si toi.
Je sais pas, tu vois, par exemple Cáceres comme... a joué sur la pelouse de Cagliari. De Chilio a joué, je vois bien plutôt, tu vois, une défense à 4 avec Cancelo. Je pense qu'il va y aller avec Bonucci, Chiellini. Côté gauche, peut-être Spinazzola.
Je suis pas sûr. Bonucci, Chiellini, je suis pas sûr. Je suis pas sûr du tout. Après, on verra, hein, mais c'est vrai, ouais, que dans tous les cas, disons qu'ils affrontent pas la Juve en pleine course pour le titre, par
non,
exemple.
C'est, voilà, ça, c'est
avec
clair.
L'obligation de gagner, donc.
En même temps, la Juve peut être sacrée championne dès ce week-end.
Alors, si le Napoli perd le lendemain.
Ouais, exactement,
donc,
contre la Genoa.
Encore, voilà. Donc, ça sera un match à suivre, mais on va dire que le mood n'est pas très bon à Milan. Que ce soit l'ambiance générale, le moral des troupes. Ce qu'on peut dire, déjà, c'est que de ce qui se raconte en Italie, et même de sources proches du Milan, Gattuso, quand même, à la fin de la saison, devrait plus être le coach, même s'il y a des champions, ça me paraît très compliqué.
Donc ça évolue.
Ouais, ça évolue. Je pense que ça va être très compliqué. Les relations avec Leonardo c'est pas excellente. Les deux sont souvent des pics. Donc honnêtement, quatrième place ou pas, je vais pas te mentir, je pense que Gattuso s'en ira. Et après, bon, on verra qui sera son remplaçant, mais en disant que voilà, c'est un peu la tendance du moment. Alors, à moins d'un revirement de situation in extremis, mais pour le moment, est-ce que disait Gattuso la semaine dernière, une phrase assez forte où il a dit, bon, mon avenir, point d'interrogation, je dirais vraiment ce que je pense en fin de saison, tu vois, c'est assez éloquent, donc on verra bien s'il parviendra à obtenir la qualif en Ligue des Champions, mais dans tous les cas, je pense que la fin de saison, il partira vers d'autres horizons.
Bon. Tout dit sur le Milan, on passe au Dolce.
On peut.
Alors, pas mal de choses dans le Dolce, puisqu'on a pu voir quand même pas mal d'équipes sur ces deux journées. Je vais commencer avec la Lazio, dont on ne parle sans doute pas assez. J'ai bien aimé leur prestation sur le poste de l'Inter, sans être fantastique. Et en fait, je me suis dit, en regardant le match, je me suis dit, avec 2-3 renforts défensivement, cette équipe, ça pourrait être vraiment pas mal. Et ça pourrait vraiment jouer chaque année le top 4. Et pas rester au pied du top 4 à chaque fois. Ils y arriveront peut-être cette année, peut-être qu'ils feront comme les autres années et n'y parviendront pas et échoueront au dernier moment. Mais je me dis que t'as un gardien qui est quand même sur sa ligne assez bon. Alors je vais revenir après sur son jeu au pied qui est par contre catastrophique, mais sur le rôle premier du gardien, en tout cas, je trouve qu'il est quand même plutôt fiable. Un attaquant qui marque, Immobilier, qui va te mettre entre 15 et 20 buts chaque saison, c'est quand même assez important. Quelques joueurs créatifs et qui te permettent d'augmenter le niveau de l'équipe, notamment face aux défenses un peu regroupées. Alors t'as Milinkovic-Savic qui en plus est très bon dans le jeu aérien, mais qui techniquement est quand même pas mauvais et qui revient bien surtout. Après un début de saison, tu t'en souviens, même une moitié de saison, on peut même aller jusqu'à la moitié de saison, très 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 compliqué. Luis Alberto aussi, également, milieu créatif. T'as des joueurs expérimentés, Lucas Leiva, Parolo, Acerbi, à peu près tous les postes. T'as des joueurs qui savent se montrer, même en jouant peu, parfois, comme Caicedo ou Correa. Donc je me dis, tu vois, pour moi, le gros point noir de cette équipe, c'est quand même la défense. Je me dis, t'ajouterais deux bons défenseurs centraux dans cette équipe aux côtés d'Acerbi. Tu commencerais à avoir une équipe qui a de la gueule. Le problème, c'est que... Est-ce que Lotito veut investir, recruter des bons défenseurs, enfin recruter des joueurs assez chers? Pas sûr. Je me demande s'ils ont pas un peu raté le coche en fait l'été dernier. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire comme une Juve bis, comme quand la Juve a vendu Zidane au Real et en réinvestissant tout l'argent sur trois joueurs importants qui allaient devenir des piliers. Donc Thuram, Buffon et Nedved. Non, pas Thuram, Cannavaro. Non, Thuram. Thuram, Buffon et Nedved. Et là, je me dis, tu vois, ils auraient peut-être pu servir de l'argent de Milinkovic-Savic. Alors, certainement pas 120 millions d'euros, parce que j'y crois pas une seconde.
Mais même si même
à 80, tu le vendais à 80, tu pouvais quand même grandement renforcer cette équipe sans tout réinvestir. T'étais capable quand même de prendre, allez, on va dire, un latéral de très bon niveau, deux défenseurs centraux de très bon niveau, des joueurs à 15 millions d'euros, 15-20 millions d'euros, voire un milieu de terrain. Et je me demande s'ils ont pas raté le coche, parce qu'aujourd'hui la cote de Milinkovic-Savic a quand même bien fondu. Je me dis est-ce que du coup Lotito va vouloir investir de l'argent, j'en suis pas sûr. On sait qu'il est toujours un peu près de ses sous et c'est toujours un peu compliqué avec
disons
lui.
Disons que Lazio a un budget bien inférieur, que ce soit au Milan, à l'Inter.
Exactement. Même la Roma, Naples.
La Roma, donc. Comme tu dis, moi je l'ai souligné après le match face à l'Inter quand même dimanche, où ils avaient fait quand même un match assez intelligent. J'ai beaucoup aimé le plan de Simone Inzaghi, qui je pense est quand même un très bon entraîneur.
Et d'ailleurs, les bêtes noires des gros clubs, c'est fini. Hein. Gagner le derby, oui. Gagner sur la pose de l'Inter.
C'est vrai. Et surtout, moi, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé dans leur match dimanche contre l'Inter, c'est qu'ils ont tout de suite compris qu'en mettant l'accent et de la densité au milieu de terrain, c'est obligé l'Inter à écarter sur les côtés et à faire des centres, comme tu as dit, au total, je sais plus, il y en a eu combien.
45.
Et tu, voilà, 45. Donc, il savait très bien qu'avec aucun numéro 9 pour l'Inter, les centres arriveraient nulle part. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé le plan de Simone Inzaghi. Mais encore une fois, il fait quand même avec un effectif, comme tu dis, qu'il a besoin de renfort. Et quand tu vois des joueurs soit comme Patrick, comme Bastos, comme...
Ah, Patrick, coûtait un penalty ce soir.
Voilà, c'est quand même pas la folie, et pourtant il est là, ils sont là. Simone Inzaghi fait un gros taf, donc comme tu dis, avec deux, trois renforts, voire quatre, pour être un peu gourmand, je pense vraiment que la Lazio pourrait même viser le podium. Parce que quand tu vois l'effectif intrinsèque, honnêtement, on l'avait déjà fait, tu te rappelles, on avait déjà fait un jeu dans le même sens, mais
ouais.
Sur l'effectif de la Lazio, la Roma, du Milan, de l'Inter ou de Naples, je pense qu'à Lazio arriverait dernier.
Mais même tu peux prendre par rapport à l'Atalanta par exemple.
Évidemment, oui, en plus. Donc c'est pour te dire le
travail.
Ou
même la Fiorentina si tu veux aller chercher plus loin.
En plus. Et c'est quand même quelques temps qu'à Lazio on va dire flirte avec les champions, donc ouais. Il manque pas grand-chose, tu vois, pour passer ce step.
Mais du coup tu vois Ouais, mais du coup tu vois, tu vas gagner à San Siro contre l'Inter, derrière tu perds contre la Spal.
Oui.
Et puis surtout que ce soir, ils font vraiment pas un bon match. Ils ont eu le ballon, mais ils étaient très mal équilibrés. Au milieu de terrain, bah, justement, ils avaient le contrôle du ballon, mais derrière, ils étaient vite effacés. Et la Spal, en contre-attaque, les a tués, quoi. Beaucoup, beaucoup d'occasions pour l'Aspal en contre-attaque avec un Lazzari qui est énorme. Alors ce que je veux noter quand même sur Lazzari, c'est que tu sais quand t'as une équipe, quand t'as des équipes qui jouent souvent en contre-attaque, souvent un des maillons essentiels, on va dire, c'est soit le numéro 6 qui va te ressortir le ballon, qui a une capacité à jouer long, à jouer court, à jouer long, à combiner rapidement, donc à verticaliser le jeu très vite. Soit t'as un numéro 8 qui est capable d'effacer des adversaires balle au pied et de remonter le terrain balle au pied, un peu ce que faisait par exemple Nainggolan à la Roma, pour essayer de schématiser, en gros un 6, allez, on va dire à la Pirlo ou à la Verratti, même si c'était, il jouait dans des équipes de possession, mais c'est avec ces qualités techniques là, un 8 un peu à la Nainggolan, on va dire ça, ou alors un ailier qui est très fort et qui va te dribbler les latéraux, qui va se réaxer, etc., centrer, etc. Sauf que ce que je trouve étonnant avec cette équipe de la Spal, c'est que le joueur essentiel de cette stratégie, c'est l'arrière-droit. C'est Lazzari. En gros, toutes les contre-attaques ce soir, puisque comme on n'avait que 3 matchs sur Sky Italy en multiplex, j'ai vu quand même beaucoup du match entre la Spal et la Lazio. Toutes les contre-attaques de la Spal passaient par Lazzari. Soit elles passaient, soit même elles finissaient par Lazzari. Le mec a fait je sais pas combien d'allers-retours. Il a fait l'essuie-glace sur son côté, il s'est créé des occasions. Il y a un moment où c'est Marusic qui vient le contrer au dernier moment, il y a un moment où il frappe à côté, il frappe sur le gardien. Enfin voilà, il a été essentiel dans cette équipe de la Spal.
Mais et regarde la Spal sans Lazzari à San Siro contre l'Inter. Alors, ils n'avaient pas été bons, mais t'as vu la différence.
Ouais.
Alors, on l'avait souligné à l'époque, mais il y a vraiment une Spal avec et sans Lazzari, et c'est pas pour rien que c'est un peu mon chouchou, c'est parce que au-delà du fait que c'est un très bon joueur. Alors, c'est un latéral droit, c'est vrai, on pourrait croire que c'est pas un poste clé, mais dans le jeu de la Spal, il fait tout. Il fait absolument tout. Donc, on l'a vu ce soir, comme tu dis, dans le multiplex, combien de fois on a vu Lazzari à l'image, parce que il est partout. Il fixe, il dribble, il centre, il se procure des occasions. Je pense que tu te souviens, au moins, la contre-attaque qui rate avec une frappe un peu trop croisée, mais il a encore la finition, donc c'est vraiment un joueur tout terrain. Et voilà, moi je milite toujours pour le voir, on va dire, dans un plus grand club.
Ce alors, qui, je pas, pense, va arriver. Hein.
Alors peut-être pas un top 5, peut-être pas dans les 5-6 premiers, mais tu vois, dans un club déjà intermédiaire, un peu comme,
Fiorentina,
la Samp, voilà, un club un peu comme ça. Je serais vraiment curieux de voir ce qu'il pourrait faire, et pourquoi pas aussi le revoir du coup en équipe d'Italie, parce que moi je crois que c'est dommage qu'on le convoque
surtout
pas,
est-ce
ou
qu'il a
ne pas le voir.
Alors ce qui peut ne pas jouer en sa faveur, c'est que c'est un latéral droit très offensif qui joue parfois qui joue aussi dans une défense à 3. Sur certains matchs, la Spal jouait à 3, enfin à 5. Voilà, ça dépend comment on prend le truc. Mais c'est vrai que l'Italie joue plutôt avec une défense à plat. Et est-ce que tu préfères pas un défenseur qui sait mieux défendre, sachant que déjà ton titulaire c'est Florenzi qui ne sait pas défendre?
Disons que nos latéraux en Italie sont quand même pas exceptionnels.
Voilà.
Bon, dire c'est quand t'as pas l'embarras du choix.
On va passer au Genoa. C'est un peu mon idée fixe. Alors pas le chien d'Obélix. Mais
est-ce que c'est une vanne préparée?
À l'instant. À l'instant. Alors, elle était pas préparée, mais il y a 10 secondes, tu vois. J'ai trouvé il y a 10 secondes.
C'est du génie.
Alors, j'ai repris mes stats du Genoa avec son Piontek. Puisque tu sais que mon idée fixe est de dire que c'était une énorme erreur
c'est
pour le Genoa de vendre Piontek cet hiver. À la fois sportivement et même économiquement, parce que je pense, je suis quasiment persuadé, qu'ils auraient pu tirer bien plus que 35 millions d'euros de Piontek, de l'attaquant polonais, cet été. Si en plus il avait continué sur ses standards.
Il vaut déjà la plus chère, hein.
Exactement. Eh bien, écoute, même sportivement, c'est compliqué. Alors, Genoa n'a que 6 points d'avance. Alors, aujourd'hui, on voit le Genoa 11e, on se dit, ah, pas mal. Enfin, ils ont que 6 points d'avance sur le premier relégable, Bologne. Quand tu vois le rythme de Bologne en ce moment, tu te dis, bon, il va falloir faire quand même un petit peu attention aussi. Sachant que le Genoa, c'est que 2 buts marqués sur les 6 derniers matchs. Sachant qu'ils ont joué le Chievo, Frosinone et l'Udinese. Donc la stat avec Piontek, c'était 1,25 but par match. Sans lui, c'est 0,75. Et Sanabria, ça fait un petit moment qu'il a pas marqué. Donc voilà, je viens presque à leur souhaiter de descendre pour cette décision stratégique totalement lamentable. Non, mais en fait, ça m'ennuie ces équipes qui vendent leurs meilleurs joueurs au mercato d'hiver sans aucune ambition sportive parce qu'ils sont un peu trop fort pour ne pas descendre. à moins que ça tourne vraiment mal. Et je trouve ça, je trouve que déjà pour les supporters, c'est un manque de respect total. Je trouve que pour l'équipe, l'entraîneur, c'est aussi pas très sympa et pas très ambitieux. Donc voilà, c'est vrai que c'est, les Genoa m'agacent profondément.
Et depuis le départ de Kadek aussi, Kwame qu'on voit moins.
Mais bien sûr. Alors que la relation entre les deux était
exactement
très forte et que ça marchait très bien. L'Udinese, juste un petit point pour dire que Fofana, hein, on ne cesse d'en dire du bien, mais il y a des raisons. Après son gros match de Naples, le match à Milan. Bon, il a encore été, moi j'ai trouvé plutôt bon, décisif sur le but de l'Udinese. Donc voilà, ça fait partie
Il fait des gros progrès. Je vais pas te dire, j'ai eu quelques doutes, mais c'est vrai que, surtout techniquement,
ouais.
Mais c'est vrai qu'il
fait quand même des gros progrès, là, je trouve. Et à mon avis, cet été, il va y avoir des courtisans.
Est-ce que tu peux me passer le nom de Bennacer dans ce dossier?
Ah,
est-ce que tu l'as prévu?
C'était prévu, juste après, bah, l'item d'après, sur ma feuille.
Eh ben écoute, est-ce qu'on peut sauter une case et pour revenir peut-être ensuite?
C'est Bennacer, voilà. Alors, c'est Bennacer et Bennacer plus Traoré. Parce que c'est deux joueurs que j'aime beaucoup, que j'ai appris à aimer cette saison. Cette doublette au milieu de terrain réussit de fort belles choses. C'est des joueurs qui sont vraiment pas maladroits avec le ballon, bien au contraire. C'est des joueurs qui se projettent beaucoup, qui ont un gros volume de course, qui sont capables de faire de gros efforts défensifs et en même temps de se projeter pour aller aux abords de la surface, parce que le style d'Empoli, c'est quand même un style de contre-attaque. Et là, on voit la patte Andrea Zoli, et on voit surtout qu'il a bossé avec Spalletti à la Roma, mais la Roma première version, les contre-attaques ressemblent énormément à ce que faisait la Roma de Spalletti, entre 2005 et 2009. Ça joue vite devant, ça va vite sur les côtés. T'as un milieu de terrain qui distille les bons ballons, t'en as un autre qui court beaucoup et qui apporte le surnombre. Voilà, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Alors Traoré a déjà signé à la FIO, je pense que Bennacer, c'est quasiment certain, partira cet été. Alors est-ce que ce sera Naples, est-ce que ça sera la Roma? C'est les deux clubs aujourd'hui qui sont les plus intéressés. Mais c'est vraiment deux joueurs à suivre aussi. Nos auditeurs qui ne sont pas familiers des matchs d'Empoli, ont la bonne idée de s'asseoir un jour dans leur canapé et de regarder un match d'Empoli, alors sauf s'ils tombent évidemment sur le mauvais match, mais ils verront quand même deux super joueurs. Et par exemple, s'ils avaient vu le Empoli-Naples de ce mercredi soir, et ben ils se seraient régalés.
Exactement. Et on peut dire aussi que Traoré a déjà signé avec la Fiorentina.
Oui, alors je viens de le préciser.
Ah, bon, alors j'ai raté.
Alors je pense que tu étais perdu dans tes rêves.
J'ai eu un mois d'absence.
Voilà,
est-ce qu'on peut préciser l'heure quand même?
Il est 1h21, très exactement,
voilà, en ordinateur.
Bien
sûr. Parce que pour les auditeurs, il sera, je sais pas, 14h, 16h, midi, 8h.
Ouais, 8h.
Pour nous, là, il est 1h20.
Ils seront au petit-déj avec la tartine de confiture sur le, sur le pain brioché. Et nous, je pense qu'on dormira peut-être.
Ouais. Je pense aussi.
Allez, encore deux petits dolce. Le Torino, le réveil de Belotti. Tu te souviens, on avait beaucoup insisté sur son début de saison raté. Et là, il se réveille vraiment. Encore deux buts ce mercredi soir face à la Samp. De beaux buts en plus. Il retrouve ses réflexes de buteur. Est-ce que c'est un attaquant qui marche encore plus que d'autres à la confiance? C'est probable. Il a vraiment des passages à vide et des passages très fructueux. Mais ce que j'ai surtout bien aimé dans ce match, alors, c'est que le Torino a totalement étouffé la Samp. Alors, c'est un peu le style de la Samp aussi, normalement, d'étouffer ses adversaires, mais là, ils ont eu du répondant. Et quand on analyse les stats avancées de pressing des équipes en Italie, il faut quand même savoir que le Torino est l'équipe qui presse le plus, le plus fort, on peut le déterminer de plusieurs manières, mais en Italie. Et ça, c'est évidemment la marque de fabrique de Mazzarri, c'est évident. J'ai vu un très bon Meite par exemple ce soir, dans la projection avec ballon, il faisait des vraies différences balle au pied. Donc voilà, le Torino, le réveil de Belotti, le Toro qui est en pleine course à l'Europe, hein, 48 points,
48
donc,
points hein.
Comme la Roma, même nombre de points. Donc attention à eux d'ici la fin de la saison. On sait que la campagne d'achat de recrutement avait été très ambitieux cet été, et pour l'instant ça marche plutôt bien.
Et dis-toi que le Torino va recevoir le Milan et la Lazio.
Oui, donc ils seront, donc ça va être, ça va on peut dire leur destin entre les mains, parce qu'il y a d'autres équipes devant, mais ça peut être une fin de saison très enthousiasmante. Et puis un dernier petit laïus quand même sur San Siro, Guillaume.
Oui, mais là,
est-ce que tu as fait un papier sur Eurosport,
tu brises mon petit cœur. Alors, on va pas s'épancher, parce que je pense que tout a été dit sur le sujet. Après, voilà, mon avis personnel, c'est évidemment ne pas le détruire, parce que j'ai envie toujours de croire à ce peu de romantisme qui reste dans le football moderne. Je suis bien conscient que, voilà, on a vu ce soir Tottenham qui a inauguré ce nouveau stade. C'est très bien, c'est très beau, c'est joli, c'est, les retombées économiques seraient énormes. Mais voilà, on sait qu'en Italie, ça fait beaucoup parler. Alors, honnêtement, les tifosi sont divisés. J'en vois un peu plus qui sont contre la destruction de San Siro, mais il y en a plein aussi qui sont pour, il faut le dire, il faut le souligner. Parce que ils ont envie de se dire que les retombées économiques pourraient augmenter le niveau du club, enfin du moins des deux clubs, du Milan et de l'Inter. Moi, j'en suis pas sûr. Tu vois, je vois Arsenal avec l'Emirates, beaucoup de retombées économiques. La politique du club a fait que depuis, il n'y a pas non plus masse de titres ou de grandes échéances. Donc, je suis pas certain que démolir San Siro et construire un nouveau stade serait forcément un gage de réussite. Certainement de réussite économique, mais pas peut-être pas du terrain. Voilà, moi San Siro, j'ai les yeux d'un enfant devant. J'ai eu la chance d'interviewer Paolo Condor, quand même un grand journaliste de la Gazzetta qui bosse aussi maintenant sur Sky et qui en a parlé comme il m'a clairement dit que c'était ce stade qui va donner cette envie des journalistes et qui va confirmer plutôt le fait que c'était son futur métier. Et lui, et comme moi, il est contre cette destruction parce que San Siro, San Siro. Alors, c'est facile à dire, c'est utopiste, mais c'est vrai, c'est que c'est un stade qui est tout simplement unique, ça fait partie des grands stades du football, il y a une histoire, il y a des
pages qui ont été écrites. C'est peut-être les deux. Il fait partie, je trouve, des deux stades les plus marquants d'Italie, des deux mythes du football italien. Pour moi, il y a San Siro et le San Paolo, parce que le Dele Alpi, c'était,
et encore, il n'y avait rien de spécial. Donc,
le Stadio Olimpico, oui, voilà, ils avaient joué entre temps aussi à l'Olimpico. Bon, le Stadio Olimpico du coup de Rome, bon, n'a aucun intérêt, et pas historique, etc. Donc, San Siro et le San Paolo, c'est aussi pour ça que Naples a du mal à imaginer un projet de nouveau stade hors San Paolo, parce que ça, c'est tellement l'histoire de ce club comme San Siro l'est pour l'Inter et pour le Milan que c'est délicat. Pour des clubs comme la Juve et la Roma, bon, quitter le Dele Alpi ou le Stadio Olimpico, ça fait un peu ni chaud ni froid.
Et surtout qu'on soit un nouveau stade pour encore le partager avec, donc si on prend la vie des deux clubs, l'un avec Milan, l'un avec l'Inter. Non, si tu construis un club, il est pour toi.
Ouais.
Si encore une fois tu recommences sur cette notion de partager, alors évidemment tu partages les frais, ce qui est un avantage pour les deux clubs, mais tu partages aussi forcément les recettes. Donc non, et tu vois, Condom disait quelque chose de très juste. Et il me disait, mais il y a deux ans et demi, il y a quand même eu une finale avec des champions à San Siro.
Ouais.
Ça veut quand même dire que c'est quand même pas un stade qui est désuet. Alors évidemment qu'il y a une modernisation à faire, mais c'est juste que Milan et l'Inter ne veulent pas la faire parce que ça prendrait du temps. Ça voudrait dire qu'il y aurait des travaux pendant les matchs. Enfin, voilà, le cadre serait pas forcément.
Il y aura un manque à gagner aussi sur la billetterie.
Voilà. Mais moi, vraiment cette notion, tu vois, c'est vraiment quelque chose que je ressens. C'est associer le mot détruire à San Siro, c'est vraiment quelque chose qui me prend vraiment au trip parce que j'aimerais bien, voilà, plus tard on est des enfants. C'est vraiment un stade qui est atypique.
Exactement.
Je pense que tu y as été aussi. Et quand t'arrives
son
devant,
design
moi,
extérieur est voilà, très particulier.
Ouais. Dis-toi que moi j'ai dû y aller, on va dire, une cinquantaine de fois, et pourtant à chaque fois, je ressors toujours mon téléphone, tu vois, pour le prendre en photo.
Ouais.
Alors j'en ai déjà à peu près 40 000. Mais non, à chaque fois je ressors parce que son architecture, son design, ce qui dégage, enfin c'est le football, c'est l'âme du football, et le détruire, je trouve ça vraiment, mais une fois sans pitié, c'est vraiment typique du football moderne où il y a plus d'amour, il y a plus de romantisme, c'est l'argent qui l'emporte surtout. Donc écoute, moi j'espère que ça va pas se faire.
Bah écoute, bien. Tu en parles très bien. Je suis pas sûr que ça suffise pour sauver San Siro.
Tu sais que je suis à deux doigts de pleurer, hein.
Ouais, bah, j'imagine. Enfin, tu pleures surtout parce que t'es fatigué et que tu bailles. Mais,
c'est aussi pour ça.
Mais non, non, mais tu en parles très bien.
Et... Mais ton avis, pour le coup, parce que c'est vrai que...
Bah, tu connais ma position sur le foot. Je suis un éternel romantique aussi sur le foot. Donc, évidemment que des stats comme ça qui...
Mais tu vois,
moi, par exemple, tu vois, j'étais très déçu. Pour parler en dehors de l'Italie, j'étais très déçu de voir Arsenal quitter Highbury pour l'Emirates. Pour moi, il n'y a plus le même charme Arsenal dans ce stade impersonnel qui ressemble à tous les autres par rapport à ce qu'était Highbury. Et voilà, autant pour des stades qui ne signifient rien comme le stade olympique de Rome ou des stades comme ça. Tu vois, c'est comme si l'OM ne jouait plus dans le Vélodrome. Bon, c'est pas possible.
Oui, exactement.
Le PSG au Parc, l'OM au Vélodrome, voilà. Et autant Gerland, tu vois, à l'inverse de Lyon, bah, pour moi, en tout cas, dans mon imaginaire personnel, ça signifiait pas grand chose.
Et t'as quand même des stades comme le Maracana qui ont été rénovés, t'as Wembley, enfin, il y a quand même des possibilités avant d'envisager de détruire un stade. Alors, les dernières nouvelles, aujourd'hui, le sindaco de Milan, c'est-à-dire le maire de Milan a dit, qui s'appelle Salah, a dit que lui était toujours contre. Et que s'il faut détruire San Siro, c'est impossible de reconstruire ça de tout près. Enfin, il y a vraiment lui est contre. Il y a plusieurs personnalités politiques qui ont pris parti pour le fait de pas détruire San Siro. Donc, je pense qu'il y a encore du temps avant qu'une décision soit prise.
Tout n'est pas perdu, Guillaume.
Tout n'est pas perdu. Voilà, j'espère que ça se fera pas, mais voilà, c'était mon cri du cœur de la soirée ou de la nuit ou de la journée pour les auditeurs.
Exactement. Avant de passer à la petite histoire de la semaine, un rappel essentiel. Nous sommes évidemment sur toutes les plateformes audio disponibles, SoundCloud, Deezer, Spotify. On est même aussi sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes et Google Podcast. N'oubliez pas de nous mettre les 5 petites étoiles sur iTunes. C'est hyper important. Ça vous prendra, 5 secondes, le temps d'un 100 mètres de Jonathan Biabiani.
Allez, voire 10 secondes.
10 secondes, mais c'est le temps qu'il faut pour Jonathan Biabiani pour traverser le terrain. Donc, voilà. Et puis, que dire d'autre? Ah oui, dire qu'il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine. Aïe. Puisque je suis en vacances, pour le coup.
Dis-le.
Je vais en Italie, voilà. On va pas se mentir. J'en profiterai évidemment pour aller voir quelques matchs. C'est un passage obligatoire.
Est-ce qu'on peut savoir lesquels ou pas?
Vous pouvez savoir lesquels. A priori, il y aura du Napoli-Genoa, du Roma-Udinese et du Sassuolo contre Parme, je crois. Ouais. Donc, je sais plus si c'est. Ouais, ça doit être Sassuolo-Parme, il me semble. Donc voilà. Et puis, on vous mettra peut-être quand même la petite histoire de l'aspect de la semaine prochaine. Allez, on va faire un petit effort, allez, un petit piqûre de rappel. Et en plus, j'en ai enregistré une là ce matin, donc c'est une histoire que peu de gens connaissent, mais elle vaut le détour. La petite histoire de la semaine, du coup, de ce podcast-là, du 33e épisode du podcast Calcio PP. Il est question d'un match de légende, Guillaume, entre l'AC Milan et le Real Madrid, et d'une leçon de football donnée par le maître Arrigo Sacchi, et c'est toi qui vas nous conter cette histoire dans quelques secondes. Merci Guillaume, et on se dit non pas à la semaine prochaine, mais à dans 15 jours. La petite histoire de la semaine du podcast Calcio et Pépé remonte au 19 avril 1989, le jour où l'AC Milan d'Arrigo Sacchi donna une leçon de football au Grand Real Madrid.
L'AC Milan s'apprête à affronter le Real Madrid pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le score du match aller est de 1 partout. Un score un peu menteur, dont les hommes de Sacchi ont dominé une équipe qui venait de remporter 3 Ligas de suite. Pour préparer cette manche retour, le Real Madrid envoie l'un des membres de son club espionner un entraînement milanais du côté du Milanello. Ce dernier reste alors littéralement bouche bée par ce qu'il voit. Les joueurs du Milan s'entraînent sans ballon et sans adversaire. Sacchi décrit où est le ballon imaginaire. Et son équipe réagira en conséquence, écrira-t-il dans son rapport. Avant ce match face au Real, Albertini blesse Evania à l'entraînement, obligeant Sacchi à mettre Richard au milieu et Costa Corta en défense aux côtés de Franco Baresi. Le 11 milanais est donc le suivant. Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costa Curta, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Rijkaard, Van Basten et enfin Ruud Gullit. Pour contrer l'armada madrilène, l'entraîneur milanais décide de faire l'impasse sur un pressing haut, place désormais au pressing partiel, où certains joueurs exercent une pression alors que les autres, eux, prennent une position plus stratégique. Le match se joue donc au milieu de terrain, où Donadoni et Ancelotti s'alternent de manière exceptionnelle. Ce dernier ouvrira même la marque à la 18e minute, avant que Frankie Rijkaard, lui, ne double la mise quelques instants plus tard. À la fin de la première mi-temps, le score est de 3-0 après un ulti but de Ruud Gullit. C'est un véritable récital. En deuxième période, le trio néerlandais refait des siennes, et c'est cette fois Marco Van Basten qui inscrit son nom au tableau des buteurs. Homme du match, Roberto Donadoni ira lui aussi de son but. Au terme d'une prestation collective exceptionnelle, Milan atomise le Real 5-0. C'est un match qui restera dans la légende du football. Pour beaucoup, ce match donne la naissance au grand Milan de Arrigo Sacchi. Face à l'une des meilleures équipes du monde, les Rossoneri ont donné une leçon de tactique et de football. Ils remporteront logiquement cette édition de Ligue des Champions face au Steaua Bucarest 4-0 au Camp Nou.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.